Le journal, présenté par Mathieu Laurent.
Bonjour à tous. La direction de la SNCF bat le rappel auprès des cadres et ressort des cartons une prime pour qu'ils remplacent des conducteurs grévistes. Colère syndicale un peu plus de 24 heures avant le début du mouvement des cheminots. En Syrie, accord final, semble-t-il, signé ce matin entre négociateurs russes et combattants de Jaïch al-Islam à Douma, dernière enclave de la route orientale à échapper au contrôle du régime. Les révélations d'un ingénieur français ont fait la une de la presse indienne cette semaine. Il a découvert que l'application Facebook dédiée au Premier ministre récoltait des données de ses utilisateurs sans leur autorisation. Voilà qui renforce le spectre d'un scandale Facebook Cambridge Analytica à l'indienne, précision de Sébastien Farcy. Enfin, la face cachée du globe. À la fin de cette édition, Nabila Hamel nous emmène en République démocratique du Congo. Le gouvernement répète à l'envi que la porte des négociations est ouverte, histoire de surligner chaque fois que possible les divisions syndicales nettes et claires sur l'ouverture à la concurrence de la SNCF. Le fossé est bien là entre les réformateurs, UNSA et CFDT, et les autres, CGT et Sudrail. À la veille du premier jour de grève, la direction, elle, fait une proposition qui souffle sur les braises. Il s'agit d'une prime proposée à certains cadres pour les inciter à conduire les trains. Cette prime, dite de conducteur occasionnel d'un montant de 120 euros, n'était jusqu'alors proposé qu'à certains cadres supérieurs. Les syndicats dénoncent une manœuvre. Bernard Aubin est secrétaire général du syndicat de cheminots First.
L'entreprise est prête à tout pour essayer d'assurer le maximum de circulation des trains jusqu'à acheter une partie du personnel. Cette grève a de particulier qu'elle n'a pas sensibilisé que les agents de l'exécution, voire de la maîtrise. La colère s'est étendue à l'ensemble de la SNCF, donc à l'encadrement, même à l'encadrement supérieur qui n'a absolument pas apprécié d'être dénigré comme l'a fait le gouvernement pour justifier la réforme. Donc il y a un très virulent et très violent mouvement de protestation qui se développe au sein de l'entreprise et qui explique les méthodes qui sont mises en œuvre, méthode de la carotte, méthode du bâton, qui sont mises en œuvre à l'heure actuelle pour essayer de minimiser les conséquences de la grève.
Des propos recueillis par Olivia Ferrandi, autre réaction syndicale, celle de la CFDT. Décidément, la direction de l'entreprise va trop loin, déclare Rémi Aufrère Privel, secrétaire général adjoint de la CFDT Cheminot. La télévision d'État syrienne ne cesse de glorifier les faits d'armes des troupes du régime affectées au combat mené dans la Route orientale depuis le 18 février dernier. 1600 civils tués, des dizaines de milliers de civils évacués. Ce matin, c'est le quotidien pro-régime Al-Watan qui communique sur le dernier accord en date. Seuls les effectifs de Jaïch al-Islam avaient encore les armes à la main à Douma. Eh bien, ils auraient accepté les termes d'un accord dit final. Les précisions à Beyrouth de Mélanie Houé.
Il serait 1300 civils, d'après l'Observatoire syrien des droits de l'homme, à vouloir quitter le dernier fief rebelle de la Ghouta orientale pour rejoindre la province d'Idleb, un des derniers bastions de l'insurrection en Syrie, dans le nord-ouest du pays. Parallèlement, quelques 22 000 habitants auraient fui Douma en direction de zones tenues par le régime, selon l'ONG. Le sort de la dernière poche rebelle de la Ghouta orientale est toujours incertain. Un compromis final entre le régime syrien, parrainé par la Russie, et le groupe islamiste Jaïch al-Islam aurait été trouvé, d'après le quotidien pro-régime Al-Watan, mais les termes à cette heure en restent flous. Alors qu'ils refusaient catégoriquement de quitter leur terre natale depuis une semaine, les combattants rebelles auraient finalement accepté les exigences de Moscou, l'allié de Damas. Il est cependant nécessaire de rester prudent. Vendredi, l'armée russe avait affirmé être parvenue à un accord pour l'évacuation de la dernière poche rebelle aux portes de Damas, quelques minutes avant que le groupe insurgé Jaïch al-Islam ne démente. Sur place, la pression s'accroît toujours. Contactée par WhatsApp, une habitante de Douma a témoigné de vols incessants de bombardiers au-dessus de sa ville et de sa crainte d'une nouvelle offensive du régime.
Le pape François a célébré la traditionnelle messe de Pâques sur le parvis de la basilique Saint-Pierre de Rome et pour deux heures plus tard donner sa bénédiction Urbi et Orbi depuis la loggia centrale de la basilique vaticane. Et le pape François réclame, je cite, « la fin de l'extermination en cours en Syrie et appelle à la réconciliation en Terre Sainte encore blessée ». Fin de citation. Au surlendemain, la mort de 16 Palestiniens à la frontière entre Israël et la bande de Gaza, le ministre israélien de la Défense rejette tous les appels à une enquête indépendante. Correspondance de Jérusalem de Marie Semelin.
il n'y aura pas de commission d'enquête, c'est ce qu'affirme aujourd'hui Avigdor Lieberman sur la très populaire radio militaire, et d'ajouter « Je pense que nos soldats méritent une médaille, ils ont fait ce qui était nécessaire ». Les Nations Unies souhaitaient demander une enquête sur ces affrontements sanglants, une volonté bloquée samedi par l'allié numéro 1 d'Israël, les États-Unis, tout comme un projet de déclaration du Conseil de sécurité de l'ONU appelant à la retenue. L'Union européenne a également dit espérer une enquête indépendante et transparente sur l'usage de balles réelles. Israël a le droit de protéger ses frontières, mais l'usage de la force se doit d'être proportionné, a précisé Federica Mogherini, la représentante de la diplomatie européenne. Mais en Israël, la position du gouvernement comme de l'état-major est sans ambiguïté. L'usage de la force était légitime contre ce qui a été qualifié d'attaque terroriste organisée. Et dans l'état hébreu, aucune voix ou presque ne questionne la réaction de vendredi dernier dans une adresse au président turc Erdogan, qui s'était dit choqué par cette attaque inhumaine. Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou lui a rétorqué « L'armée israélienne est la plus morale du monde ». Alors que les Gazaouis se préparent à 6 semaines de manifestations, notamment le vendredi, ce jusqu'à la mi-mai, les déclarations de fermeté israélienne face aux protestataires palestiniens augurent d'une fermeté qui n'exclut pas de nouveaux heurts meurtriers.
2 soldats égyptiens tués, 6 djihadistes éliminés dans le cadre d'une opération antiterroriste menée dans le Sinaï. L'armée poursuit là une vaste campagne militaire lancée quelques semaines avant l'élection présidentielle, scrutin dont le résultat sera connu demain. La démission du gouverneur de l'oblast russe de Kemerovo, ville de Sibérie, où il y a une semaine, l'incendie d'un centre commercial a fait 64 morts, dont 41 enfants. Le président russe avait réclamé in situ des sanctions contre les responsables, je cite, de négligence criminelle. Le scandale Facebook Cambridge Analytica se propagerait-il en Inde? Ce n'est jusqu'à nouvel ordre qu'une question. Relevons tout de même que les 2 principales formations politiques du pays, le BJP de Narendra Modi et le parti du Congrès de Rahul Gandhi, s'accusent mutuellement d'avoir fait appel au service de cette entreprise de collecte et traitement de données pour manipuler les électeurs lors des scrutins de ces dernières années. Et voilà qu'un informaticien français vient de révéler quelques informations embarrassantes pour le Premier ministre. À New Delhi, Sébastien Farcy.
Il s'appelle Baptiste Robert, ou de son pseudonyme sur Twitter, Elliot Alderson. C'est un ingénieur toulousain de 28 ans, spécialisé dans les logiciels pour la plateforme Android. Et depuis 3 mois, il prête main forte à ses collègues indiens pour dénicher les vulnérabilités des réseaux et protéger leurs données personnelles. Au début de la semaine, il révèle ainsi que l'application dédiée au Premier ministre indien Narendra Modi récolte des informations de ses utilisateurs, comme leur géolocalisation, sans demander leur autorisation. Mais surtout, ces données sont ensuite envoyées à une société spécialisée dans l'analyse, alors que l'application assure elle-même qu'elle ne les partage avec aucun tiers. Or, ce logiciel du Premier ministre, lancé il y a 3 ans, a déjà été téléchargé par 5 millions de personnes qui donnent à chaque fois leur nom, adresse, religion, etc. Baptiste Robert explique le risque de ce système.
J'ai votre adresse IP, j'ai vos préférences, j'ai votre religion, j'ai plein d'informations personnelles sur vous. Si je cherche à vous convaincre, je cherche à ce que vous votiez pour moi, je vais essayer de moduler l'actualité que je vais vous montrer dans l'application par rapport à ces informations-là. Et ça, c'est techniquement tout à fait faisable, puisque silencieusement, là, on peut voir dans l'application qu'on envoie ces données-là.
Ce jeune informaticien ajoute que des données très simples peuvent se révéler être une mine d'or pour ces nouvelles sociétés d'analyse. Il prend l'exemple de la géolocalisation ou adresse IP qui est récoltée par cette application sans le consentement des utilisateurs.
Prendre l'adresse IP une fois comme ça, il n'y a pas mort d'homme. Mais c'est-à-dire que si on le fait de manière systématique et qu'on interprète cette donnée, et c'est ce qu'a fait Cambridge Analytica, c'est un très bon exemple, à partir de données assez simples, on est capable d'obtenir un profil d'une personne et de ses habitudes très très facilement. Par exemple, sur Facebook, avec, je crois, 30 likes, on est capable de dresser un profil psychologique de la personne.
Les révélations de Baptiste Robert ont fait la une des journaux indiens cette semaine et entraîné une question au Parlement. La politique de confidentialité de l'application du Premier ministre, elle, vient d'être modifiée.
Il est un peu plus de 12h39, vous écoutez le journal de France Culture, c'est l'heure de la face cachée du globe. Bonjour Nabila Hamel, vous nous entretenez entre autres de politique en République démocratique du Congo.
Bonjour Mathieu. La Pologne achète pour près de 4 milliards d'euros le système antimissile américain Patriot. L'annonce a été faite mercredi par Varsovie. Il s'agit du plus important contrat d'armement destiné à renforcer la défense anti-aérienne du pays. Les premières batteries seront livrées en 2022 et devraient être opérationnelles en 2023. Au moment où les tensions sont vives entre les Occidentaux et la Russie, Moscou a immédiatement réagi en dénonçant, je cite, « la militarisation croissante de la Pologne ». La Chine compte rendre plus difficile les transferts vers les sociétés étrangères de tout ce qui est droit sur les circuits imprimés, les logiciels et les nouvelles cultures de plantes. Désormais, les particuliers et entreprises du géant asiatique devront obtenir le feu vert de Pékin. La Chine voit dans la nouvelle directive rendue publique vendredi une affaire de sécurité d'État et aussi une règle conforme aux usages internationaux. Affaire de l'ex-espion russe Sergei Skripal, si Washington a bien confirmé le renvoi d'une soixantaine de diplomates attachés à l'ambassade de Russie aux États-Unis et à la représentation russe à l'ONU, le département d'État assure qu'il ne s'agit pas de réduire le personnel de la mission diplomatique russe dans le pays et que Moscou pourra demander de nouvelles accréditations pour remplacer le personnel expulsé. L'élection présidentielle maintes fois reportée en République démocratique du Congo est annoncée pour le 23 décembre et le parti historique de l'opposition a investi hier Félix Tshisekedi comme candidat. L'UDPS avait été fondée par son père Étienne, mort en février 2017. Christophe Rigaud, vous suivez l'actualité en RDC à travers votre site Afrique Arabia. L'UDPS se donne-t-elle ainsi plus de chances de l'emporter en cas d'élection ?
Je dirais que Félix Tshisekedi a d'autant plus de chances que le candidat qui est actuellement le plus en vue et qui apparaît comme favori pourrait ne pas se présenter aux élections. Donc c'est vrai que cette candidature de Félix Tshisekedi pourrait apparaître comme une sorte de plan B pour l'opposition congolaise. Maintenant, il faut savoir que pour gagner les élections, l'opposition devra apparaître comme unie parce que il faut rappeler que la présidentielle en RDC se déroule en un seul tour et que effectivement plusieurs candidatures d'opposants feraient mathématiquement perdre l'opposition, condamnée en fait à présenter une seule candidature si elle souhaite gagner.
Christophe Rigaud, où en est aujourd'hui le parti, un peu plus d'un an après la mort de son fondateur, l'opposant historique Étienne Tshisekedi ?
Le parti est toujours très affaibli, morcelé, parce que certains cadres de l'UDPS en fait sont partis rejoindre le pouvoir, notamment l'actuel Premier ministre Monsieur Tshibala, et puis son nouveau leader Félix Tshisekedi peine en fait à s'imposer, notamment par un manque de charisme. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui on peut dire que le parti est en ordre de bataille et qui peut incarner l'opposition historique dans la droite ligne de son père Étienne Tshisekedi, qui s'est opposé en fait à tous les pouvoirs depuis Mobutu jusqu'à Kabila père et fils. Mais il faut dire que jusque-là, le favori est toujours Moïse Katumbi, mais c'est vrai que son exil forcé en Europe et ses affaires judiciaires font craindre qu'il ne puisse en fait se présenter. Donc c'est vrai que les déboires judiciaires de Moïse Katumbi remettent un petit peu en selle Félix Tshisekedi.
Je vous conduirai à la victoire s'il y a des élections, c'est ce que déclarait hier Félix Tshisekedi, un peu comme s'il ne croyait pas lui-même à leur tenue.
C'est vrai que l'alternance est en marche en RDC, mais encore faut-il que Joseph Kabila quitte le pouvoir et puis que le scrutin ait réellement lieu comme prévu en décembre prochain et surtout qu'il se déroule en toute transparence. Et là, il y a matière à s'inquiéter. Il y a notamment le taux d'enrôlement des électeurs qui est anormalement élevé dans certaines provinces, ce qui fait craindre des irrégularités et puis de la fraude, comme dans le scrutin en fait de 2011, qui avait été chaotique et qui est à l'origine en fait de la crise de légitimité de Joseph Kabila. Donc c'est vrai qu'on peut craindre que Joseph Kabila retarde encore ce scrutin ou qu'il essaye de se maintenir au pouvoir en modifiant la Constitution pour être de nouveau candidat.
Christophe Rigaud du site Afrique Arabia. Des masques protecteurs ont été apposés hier devant la bouche de statues en France et des pancartes « Nous n'en poumons plus » ont été brandies pour dénoncer l'inaction des pouvoirs publics contre la pollution de l'air. Des militants de plusieurs associations, notamment France Nature Environnement ou Greenpeace, ont mené cette action symbolique à Paris. Comme dans d'autres villes de France, l'action coïncidait avec le le dernier jour prévu par le Conseil d'État pour la remise à la Commission européenne du plan du gouvernement contre la pollution atmosphérique. À dimanche prochain.
À dimanche prochain. Merci à vous, Nabila Hamel. On apprend à l'instant la disparition du ténor Michel Sénéchal, grande figure du monde lyrique et du répertoire français en particulier. Il est mort ce dimanche à l'âge de 91 ans, information que l'on doit à France Musique. Grand défenseur du chant lyrique, Michel Sénéchal prônait la refondation des troupes d'opéra. Il avait d'ailleurs fondé l'association L'Art du chant français avec le chef Georges Prêtre. Les très grandes lignes météo de ce dimanche, nouvelles perturbations à l'œuvre à la pointe bretonne, quelques chutes de neige sur les Vosges, le Jura et le nord des Alpes, quelques averses sur la Normandie, le centre, la Bourgogne et le massif central, de belles éclaircies sur une grande moitié sud. Cette édition a été préparée avec Martin Descloseaux, à la technique Alex Dang.